Bonsoir. Le président Félix Tshisekedi a nommé mardi 4 mai le lieutenant-général Luboya Nkashama Djoni, gouverneur militaire du Nord Kivu, et le lieutenant-général Ndima Kongouba, gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Avec ces nominations, le chef de l'État met ainsi en place l'équipe qui va gérer ces deux provinces durant l'état de siège qui entre en vigueur dès ce jeudi 6 mai pour une période de 30 jours renouvelable. Quelle lecture faire de ces nominations? Nous en parlons ce soir avec Maître Jacquemin Chabani. Il est président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il est aussi avocat au barreau de Kinshasa Ngombe. Maître Jacquemin Chabani, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamouka. Jean-Baptiste Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir madame.
Et le professeur Casimir Ngoubi, politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Professeur Casimir, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes très nombreux, comme d'habitude, à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Eric Banyanger, Bukavu, Sud Kivu, avec la nomination des officiers militaires à la tête de ces provinces. Nous nous attendons à l'éradication et à la reddition des plusieurs groupes armés nationaux et étrangers. Il serait aussi important que les enquêtes soient ouvertes en vue de dégager les responsabilités de tous les acteurs politiques et militaires qui ont travaillé contre la République dans cette partie du pays. Cependant, comment ces nominés arriveront-ils à régler d'autres questions administratives et des développements locaux des entités placées sous leurs responsabilités? Professeur Constantin Kamay Ngalamouloumé, à Kikwit, dans la province du Kwilu, cette nomination a répondu aux attentes des Congolais. Ces deux officiers ne sont pas originaires de ces deux provinces et ensuite, ils ont l'expérience et la connaissance du terrain. À Béniolor Kivu, vous nous suivez sur la 92.3 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Le Nord Kivu et l'Ituri, les deux provinces concernées par l'état des sièges, connaissent depuis hier mardi soir les noms de leurs gouverneurs et vice-gouverneurs militaires. Le lieutenant-général Luboya Nkashama Djoni a été nommé gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, alors que le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin occupe le poste de vice-gouverneur policier. En Ituri, c'est le lieutenant-général Ndima Constant qui est nommé gouverneur militaire de province. Le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo et vice-gouverneur policier. Rappelons qu'à partir de demain, jeudi 6 mai, les deux provinces seront administrées par un exécutif militaire pour une période de 30 jours renouvelable. Dona Madimba nous en dit plus.
Avant leur nomination, le lieutenant-général Luboya Nkashama, nouveau gouverneur du Nord Kivu, était jusque-là commandant de la première zone de défense des forces armées, les FRDC. Le lieutenant-général Constant Ndima, nouveau gouverneur de l'Ituri, était lui chef d'état-major général adjoint de l'armée chargé de l'administration et de la logistique. Le chef de l'État met ainsi en place l'équipe qui va gérer ces deux provinces durant l'état de siège. Félix Tshisekedi avait décrété vendredi 30 avril un état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Cette décision a été prise au regard de la gravité de la situation dans ces deux provinces, conformément à l'article 85 de la Constitution de la RDC. Après concertation entre le chef de l'État et le Conseil supérieur de la Défense, constitué notamment du Premier ministre et des deux présidents des deux chambres du Parlement, l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu débute demain jeudi pour une durée de 30 jours. Le 3 mai, le chef de l'État avait signé deux ordonnances organisant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour faire face à la situation pendant l'état de siège, les autorités civiles des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu, celles des entités décentralisées et déconcentrées des dites provinces, seront remplacées par les officiers des forces armées de la République et ou de la police nationale congolaise, désignés à cet effet, notait l'ordonnance. D'après la même ordonnance, les immunités et autres privilèges ne sont pas d'application pendant l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux sont également suspendus durant la même période, mais continuent de bénéficier de leurs avantages financiers.
Merci Donna Madimba pour tous ces détails. Maître Jacquemin Chabani, président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes aussi avocat au barreau de Kinshasa à Gombe. Le chef de l'État a décrété vendredi 30 avril un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette décision a été prise au regard de la gravité de la situation dans ces deux provinces. Et hier mardi 4 mai, il a nommé des militaires à la tête de ces deux provinces pour gérer les provinces pendant cet état de siège. Maître Chabani, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la décision prise par le chef de l'État de décréter l'état de siège dans ces deux provinces?
C'est une décision courageuse, responsable. Je crois qu'il fallait prendre la mesure du danger, l'importance de la gravité que cela impactait depuis près de 20 ans sur nos populations de la partie orientale de la République. Il était temps que le chef de l'État prenne une décision à la hauteur de tous ces défis qui puisse permettre à ce qu'on en trouve des solutions définitives.
Alors une certaine opinion se dit, près de 20 ans, l'armée sur terrain dans les deux provinces n'a pas réussi à ramener la paix. Est-ce que c'est en 30 jours que l'on pourra mettre fin à ce cycle des violences dans ces deux provinces?
Tout dépendra non seulement de l'efficacité de ces opérations militaires qui vont se mener dans le cadre de cet état de siège. Tout dépendra aussi de la participation et l'implication aussi des populations et des différents services. Mais ici, il faut noter que la Constitution donne la possibilité au président de la République de proroger au-delà de cette mesure avec l'implication de deux chambres du Parlement, d'un autre délai encore de 30 jours. Je crois que nous avons tous intérêt à ce que cela se conclue le plus rapidement possible. C'est pour ça que dans son message solennel fait à la nation, le président de la République a sollicité la participation de tous, au-delà des forces armées congolaises, mais principalement des populations, mais aussi des forces civiles de la nation à travers les organisations politiques, les organisations de la société civile, pour que cet accompagnement permette que dans ce délai de 30 jours, peut-être même moins, parce que les deux provinces vont se retrouver dans un état d'exception qui va permettre à la nouvelle administration militaire et policière de poser des actes policiers de sécurité qui vont permettre à non seulement à identifier, mais à neutraliser les forces négatives.
Maître Jacquemin, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces opérations pendant cet état de siège soient efficaces?
Bon, lorsque vous lisez attentivement les ordonnances 21, 015 et 016, les mesures d'application, il a été donné certains pouvoirs d'exception à cette nouvelle administration militaire et solitaire, qui va permettre à ce que, si on les applique, elle les applique comme il se doit, avec l'accompagnement des forces armées et des différentes opérations militaires, avec l'implication, la participation aussi des populations civiles qui vivent dans ces milieux et qui ont une certaine maîtrise de ces réalités, ça va permettre à ce qu'on éradique et on neutralise ces forces négatives. Il y a des questions principales ou des préoccupations principales de désarmement, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait près de 20 ans que ces zones, ces provinces de la République sont dans des situations d'insécurité, d'exception. Il y a eu une succession d'organisations de rébellions politiques qui se sont organisées sur place. Les armes sont à profusion dans les villes, dans les cités, dans les villages. Donc, il y a des opérations de désarmement. Il y aura, on va réitérer un appel à ce que les civils quittent les groupes armés, quittent la brousse, la forêt, dans des situations de groupes armés, donc de désarmement. Et il faudra aussi arriver à dénicher et à neutraliser les forces négatives. Vous savez que ici il faut arriver à réaliser que contrairement à certaines rébellions que nous avons connues, qui étaient des mouvements politico-militaires avec des revendications politiques claires et avec des organisations, c'est-à-dire des responsables identifiés, des porte-paroles, des comités reconnus, aujourd'hui nous avons affaire à, comme on dit, une guerre asymétrique, des organisations qui ne s'identifie pas clairement avec des revendications non connues. Vous avez vu il y a quelques jours, on a eu en pleine ville à assassiner un imam à Béni de la façon la plus crapuleuse possible, en plein culte, par des gens qui se sont introduits dans ce lieu de culte, qui ont commis leur acte, qui sont dans la ville. Donc il faut arriver à réaliser que nous avons atteint un niveau tel que, effectivement, l'application de l'article 20, de l'article 85 de la Constitution s'est imposée au président de la République et s'avère comme une des solutions.
Maître Jacquemin Chabani, hier mardi 4 mai, le chef de l'État a procédé à la nomination des gouverneurs militaires dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais déjà, il y a des voix qui s'élèvent pour manifester un peu leur mécontentement par rapport à ces nominations. Ces personnes estiment que le chef de l'État n'a pas fait un bon choix parce que ces deux gouverneurs militaires étaient des anciens rebelles.
Bon, je crois qu'ici aussi il faut arriver à souligner la complexité de la menace qui est en face de nous. Je répète encore le fait qu'elle s'est encastrée dans la vie quotidienne dans nos populations depuis près de 20 ans. Les voix ne se lèvent pas qu'à partir du moment où le président a levé l'option de faire application de l'article 85 de notre Constitution. Les voix ne se lèvent pas qu'à partir du moment où le président de la République désigne les personnes qui vont mener à bien cette mission à travers les deux officiers militaires et les deux hauts gradés de la police nationale. Les voix s'élèvent à chaque fois qu'on se met ensemble, qu'on réfléchit, qu'on dénonce cette insécurité. Rappelez-vous que lorsque le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Bosso, s'est exprimé sur la question, des voix se sont élevées. Donc ici, ça nous interpelle à plusieurs égards. Il faut aussi arriver à souligner que la désignation de ce responsable ne devrait pas nécessairement apporter satisfaction à 100% de toute la communauté nationale. Mais encore, sur ce cas d'espèce, est-ce que ce ne sont pas des officiers des forces armées et de la police nationale? Est-ce que le fait d'avoir fait, je ne sais pas, une quelconque organisation politico-militaire à une certaine période, fait de X ou Y qu'il n'est pas citoyen congolais, qu'il n'a pas la volonté de voir ce pays aller de l'avant. N'oublions pas que nous avons été tous ensemble au dialogue intercongolais et que nous en sommes sortis avec un pacte et la conviction que ensemble nous allons aller de l'avant.
Merci.
Donc ce type de stigmatisation aussi risque de nous ramener en arrière.
Et Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, vous êtes secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka. Que pensez-vous de la décision du chef de l'État de décréter l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri?
Alors, en septembre 2019, il a été décidé de lancer ce que M. Félix a appelé opération de grande envergure. Et jusqu'au dernier jour de cette année, on a continué à faire penser que ces opérations étaient en cours. alors qu'en réalité, ces opérations n'ont été appuyées que pendant les seuls trois premiers mois, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. Aujourd'hui, on nous sort un nouveau concept, état de siège. Je voudrais espérer qu'il ne s'agit pas d'un simple slogan creux et que cet état de siège devrait avoir un contenu opérationnel réel, parce que il ne faudrait pas que l'on s'amuse avec la vie de nos militaires. J'ai été à Beniamène, reprise à Rutshuru, à Goma, dans le Masisi. Je vois comment des citoyens, des militaires congolais sont réellement soucieux d'apporter la paix dans ce pays. Mais toutes les opérations militaires qui ont été lancées avec des concepts à Manilé, au Mbata, Sokola 1 et autres, aujourd'hui c'est état de siège, n'ont pas été dotés d'un contenu opérationnel réel. C'est là que je me dis, il est bon de nommer aujourd'hui des officiers militaires à la tête de la province du Nord Kivu, de l'Ituri. Demain, on va nommer pour tous les territoires du Nord Kivu, de l'Ituri, des administrateurs militaires. Je ne sais pas jusqu'à quel degré on va aller. Mais là n'est pas le problème, madame. Le gouverneur militaire sera basé à Goma. On va même désigner un administrateur militaire à Rutshuru. Mais le problème qui s'est toujours posé, qu'est-ce que l'on a fait des conditions opérationnelles militaires? Quelle est l'enveloppe qui a été prévue pour ces opérations dans le budget que M. Sama Lukonde a présenté? Rien, cette opération spéciale, état de siège, c'est un assaut final que l'on voudrait lancer. Mais quand vous lisez le programme du gouvernement, au plan financier, il n'y a rien qui est prévu de manière à nous rassurer que les conditions de vie des militaires, les conditions logistiques, l'équipement sera renforcé. Donc ça risque, ça paraît effectivement un slogan de la même manière que l'on a lancé la gratuité de l'enseignement. Deuxièmement, quelles sont les causes à la base des échecs des opérations militaires que nous avons connues? Il y a notamment le problème des sous-effectifs. En octobre 2019, nos vaillants militaires à Beni ont pris le contrôle de plusieurs localités. Mais les effectifs dont on nous a parlé, on a dit qu'il y avait 21 000 militaires sur un rayon de 50 km². Mais il a manqué d'effectifs pour assurer la couverture des agglomérations qui étaient peuplées par nos concitoyens. Et tous ces malfrats, tous ces adeptes se sont mis à massacrer ces populations faute d'effectifs. Est-ce que la nomination d'un gouverneur militaire répond à la question des sous-effectifs dans toutes ces zones? J'ai dit non. Donc, aujourd'hui, il est bien beau que l'on nomme ces autorités, que l'on décrète cet état de siège, mais je suis tenté de penser que cette décision répond beaucoup plus à un objectif politique qu'à un objectif opérationnel. Cet objectif, le pouvoir à place veut simplement à étouffer les manifestations populaires auxquelles nous avons assisté à Oicha, à Beni, Butembo, Goma, Kinshasa, et à mon avis, c'est une mauvaise approche.
Alors Jean-Baptiste Cassé, quoi, vous l'avez dit vous-même, état de siège, c'est l'assaut final. Vous ne pensez pas qu'il était vraiment temps de décréter cet état de siège pour finalement restaurer la paix dans ces deux provinces qui ont tant souffert des atrocités des groupes armés?
C'est depuis longtemps que nous avons réclamé l'assaut final, madame. Mais je voudrais rappeler ici les contextes politiques dans lesquels cet état de siège est décrété. C'est un contexte où, pour la première fois, l'Assemblée nationale venait d'adopter une résolution créant une commission d'enquête parlementaire avec un terme de référence robuste qui consistait notamment à faire l'audit des financements des opérations militaires. Parce que, madame, j'ai parlé tantôt de l'opération que l'on a appelée de grande envergure lancée en 2019. Tenez, cette opération n'a été soutenue que pendant les trois premiers mois. Mais de janvier 2020 jusqu'à février 2021, tous les fonds ont été systématiquement détournés au point que lorsque l'on fouille, on essaie peut-être de se renseigner, les commandements sur le terrain n'ont pas reçu plus de $50,000 sur 14 mois. Les militaires ont été contraints de se nourrir d'une chikwang pour 48 heures. Et l'Assemblée nationale, alertée sur ces faits graves, les soldes, la prime des guerres de militaires,
n'a été payé qu'en novembre 2019 et surtout le mois suivant. On a systématiquement tout détourné. L'Assemblée nationale, alertée par toutes ces allégations, a décidé de créer une commission d'enquête chargée de faire un audit sur les fonds débloqués du trésor public et les montants réellement arrivés sur le terrain. La commission d'enquête devait investiguer sur les allégations d'affairisme des officiers militaires, mais voilà que l'on décide aujourd'hui de mettre en échec cette commission d'enquête et on instaure un régime autoritaire, pas de contrôle parlementaire, pas de contrôle citoyen. Donc c'est là que je trouve
que cette histoire arrive. Selon le porte-parole des FARDC, il y aura une cour militaire pour juger tous ces militaires ou policiers qui vont mal se comporter.
Madame, il y avait une cour militaire lorsque les jeunes de Loumé ont coupé ou barricadé les routes parce qu'ils avaient identifié des camas, des véhicules des militaires qui transportaient des cacao vers Kassindi. Et c'est là le début de toutes les manifestations que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que la cour militaire a dit? Il y avait une cour militaire lorsque 1300 détenus ont évadé de manière mystique sérieuse de la prison de Kangwaï et rien n'a été fait. Il y avait une cour militaire lorsqu'on a dénoncé la complicité entre certains officiers militaires et les assaillants, les miliciens du groupe Ndissi Guidon. Dans le Massissi, rien n'a été fait. Donc
vous restez quand même, vous êtes assez sceptique par rapport aux opérations militaires qui vont se faire pendant cet état de siège pour restaurer la paix dans ces deux provinces. Jean-Baptiste Cassé, quoi?
Non seulement je suis sceptique, mais je note une diversion. Nous avons demandé depuis longtemps, ensemble avec tous les collègues députés du caucus du Nord Kivu, avec la société civile, que, un, on procède à la permutation des troupes qui ont été longtemps dénoncées par la population depuis 2009, 2013, ils sont sur le terrain, et au lieu d'une permutation, on a fait simplement un changement d'une localité à une autre dans la même zone. Nous avons demandé qu'elle sanctionne la chaîne logistique parce qu'on ne peut pas s'imaginer que le commandement décide de le changement de tenue des militaires FARDC et en moins de deux semaines, les tenues se retrouvent entre les mains des assaillants. Ces gens-là n'ont jamais été sanctionnés.
Merci.
Nous avons demandé que ceux qui ont détourné des fonds de renseignement, des salaires de militaires soient sanctionnés. Au contraire, on les a récompensés par des hautes fonctions. Donc, la bonne volonté ne doit pas se décréter par des slogans que d'état de siège qui sont de nature simplement à étouffer l'expression populaire par des manifestations.
Merci.
La volonté doit se manifester par des opérations concrètes, notamment d'hosteler par des certains budgets conséquents. J'aurais aimé, j'aurais applaudi si j'apprenais par exemple que M. Félix se dise, pour l'effort de guerre à Béni, je décide d'octroyer 3 mois de mon salaire. Je demande à tous les ministres, tous les députés nationaux, tous les citoyens de contribuer à l'effort de guerre pour améliorer les conditions de vie des militaires. Nous décidons de sanctionner tous ces affairistes et là, nous aurions eu un contenu réel sans pour autant empiéter à l'exercice des fonctions par les autorités civiles.
Professeur Casimir Ngouvi, politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Professeur, votre lecture par rapport à cet état de siège décrété par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.
Merci beaucoup, madame. Je commence par saluer mes co-députés, l'honorable Jean-Baptiste et Jacquemin Chabani. Madame, la première des choses que je voudrais affirmer ici, c'est que je constate une grande ampleur de tâches confiées aux autorités militaires. Pourquoi? Des dizaines de groupes armés de taille variable sont encore actifs dans l'est de la RDC. Et certains experts donnent le chiffre de plus de 120. Les ADF, comme vous le savez, madame, sont les plus meurtriers, particulièrement depuis 2019, et les civils, rien que depuis 2019. Et sur le terrain, les populations exigent la présence du chef d'État, Béni, partout, sur toute la partie de l'Est, les départs de la MONUSCO, des demandes qui vont au-delà de ce que le gouvernement pourrait faire aujourd'hui. Aussi, plusieurs alliances se font et se défont dans la région entre groupes armés nationaux et étrangers défendant des intérêts des sociétés multinationales, des États, des particuliers impliqués même dans la contrebande. L'ampleur aussi, pourquoi? Parce que le conflit entre les communautés il y a quelques années entre Maïlengo a fait des milliers de morts, jusqu'à l'intervention des forces européennes à Tunis, avec toutes les blessures, les cicatrices qui demeurent encore. Deuxième lecture, madame, en relation internationale, la proclamation de l'État du siège peut être perçue autrement par le pays voisin, je veux dire une menace. Le réalisme défensif initié par John Hersh à partir des dilemmes de sécurité développés par Arnold Walser, selon lesquels ce dilemme, donc un supplément de force, n'augmente pas systématiquement la sécurité et peut s'avérer contre-productif en renforçant la défense des pays voisins qui peuvent se sentir menacés par cette accumulation de moyens défensifs. Mais aussi, l'ordonnance portant nomination des gouverneurs et vice-gouverneurs ici des rangs des FRDC et de la police devait être une suite logique d'une préparation minutieuse sur le terrain à travers le gain de la confiance de la population, le soutien efficace des services de sécurité, ici je parle encore de la NER, police et autres qui interviennent dans les combats ou dans les opérations. Si tel n'a pas été le cas, madame, je crains fort que la tâche soit très compliquée au niveau des acteurs mobilisés. Le gouvernement ne devrait pas aussi considérer les protestations des acteurs locaux comme totalement mauvaises. La société civile pourrait être prise en compte dans cette opération pour souder le mariage entre les autorités militaires et la population. Voilà donc, de manière globale, ramasser non seulement mon inquiétude, mais constat d'une grande ampleur de cette tâche confiée aux autorités militaires.
Vous êtes inquiet, professeur, mais cette décision du chef de l'État a été saluée par une grande majorité de Congolais. On a vu ça à travers les réactions que nous recevons des auditeurs. Ils saluent cette décision et pensent que c'est la solution pour finalement finir avec ce cycle de violences, ces groupes armés qui massacrent les populations dans ces deux provinces.
Oui, madame, en tant que patriote, je suis très content, suffisamment content, mais le réalisme sur le plan sécuritaire me permet de m'inquiéter quelque peu. Je disais, si en amont, si véritablement en amont, rien n'a été pris en termes, comme le disait l'honorable Jean-Baptiste, en termes de soutien au FRDC, en termes de mobilisation, grande mobilisation financière, pour aider les militaires au front, et les autres services de sécurité, je crois que nous risquons là d'assister à un revers par rapport aux FRDC sur le. Mais si, je propose, les choses ont déjà été lancées par rapport à ces financements, je crois, madame, je vais quand même me reposer par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Nous avons perdu énormément de patriotes, de concitoyens, qui doivent pratiquement se reposer. Et si cette fois-ci, avec cette opération, les populations libérées, moi je crois que ce serait une bonne chose. Mais si cela n'a pas été le cas, voici la raison fondamentale de mon inquiétude par rapport à ça. Quel est par exemple le pouvoir qu'on donne aux militaires, perquisition des jours et des nuits dans les domiciles, éloigner les réquis de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'État des sièges. Rechercher, ordonner la remise des armes et les... Oh Dieu. Interdire des réunions tendant à trouver l'ordre public. Situation de personnes. Quand vous regardez cette ordonnance à l'article 4, ce que j'ai tenté de lire, vous comprenez que la tâche est ardue, très énorme. Est-ce que les militaires, autorités militaires, ont déjà de moyens pour, d'abord, d'un côté, bénéficier de la légitimité de ces populations, parce qu'en vous perquisitionnez les maisons des citoyens. Vous êtes apparemment, vous avez dit, qu'ils ne sont pas originaires. Il y a un problème de communication, un problème de confiance, de légitimité par rapport à ces idées. Pensez-vous, les populations, comme ça, tout le monde est affecté volontiers que les maisons soient perquisitionnées et que ces chefs de guerre, n'est-ce pas, ne profitent de cette occasion pour se permettre n'importe quelle occasion. Et quelle est l'action? Voilà pourquoi je me dis, c'est pas très compliqué par rapport à l'idée, à la conception de la chose par rapport à cette ordonnance, et c'est compliqué plutôt sur le plan des opérations militaires, et surtout que si le service, la justice militaire ne fait pas convenablement son travail de contrôle, de sanction, je crois qu'il sera très difficile. Est-ce que les officiers militaires, qui sont de la justice militaire, se sont-ils aussi préparés conséquemment pour suivre la loupe dans les plus petits détails les actions qui seront menées par les militaires au front et par la suite le PNIS en termes de commercial? Quel est ce temps? Alors, si toutes ces conditions ne sont pas encore réunies, madame, je le disais, je crains. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, mais je crains que le résultat soit tout à fait autre que celui auquel on s'attend.
Merci, professeur. Les auditeurs sont très nombreux à nous appeler sur notre standard. Jacquemin Chabani, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient d'Isangi, dans la province de la Tchopo.
C'est Dieu Boston et depuis Isangi, province de la Tchopo. Sa nomination démontre combien de fois la détermination du président de la République pour chercher à ramener la paix dans cette partie du pays. Mais il y a ici des choses qui s'imposent pour que ces généraux réussissent bien leur mission. La première chose, qui a les moyens, et la seconde chose, qui a le soutien populaire. Alors pour les moyens, il faut les moyens humains, financiers et logistiques. Car tant que les militaires sur le terrain seront en panne de provisions et de l'air sode, ils ne vont pas produire les rendements que nous attendons tous, qui est la paix durable. Quant à la collaboration avec la population civile, ces généraux sont appelés à mettre tout en œuvre pour bien coopérer avec les civils. Car sans eux, il n'y aura pas la réussite. Parce que ces derniers ne vont pas produire les bons renseignements.
Jacquemin Chabani, comment vous réagissez au point de vue de cet auditeur qui nous a appelé depuis Sangui? Il partage un peu l'analyse de Jean-Baptiste Kasekwa et du professeur Casimir Ngoumbi.
Oui, effectivement. D'abord, je commençais par saluer mes co-débatteurs, le professeur et l'honorable. Je comprends à juste titre les inquiétudes de monsieur le professeur, technicien dans son domaine. Il a la maîtrise de la profondeur et de la longueur de la tâche. Et c'est quelque peu logique de sa part de s'interroger, de se poser des questions, de se rassurer des préalables pour qu'effectivement la mission confiée par le président de la République à notre armée puisse atteindre ses objectifs. Mais j'ai quelque peu de regret lorsque j'ai auditionné l'honorable membre de la commission défense et sécurité de notre Assemblée nationale. Je crois qu'il y a des questions d'intérêt national sur lesquelles nos divergences politiques ne devraient pas prendre le dessus, sur lesquelles tous nous devrions avoir une attitude républicaine, parce que nous en avons tous intérêt, et sur lesquelles nous devrions mettre de côté notre politique d'adversité, surtout et encore dans les débats publics. L'honorable est membre du Caucus Nord-Kivu. Je crois qu'il est de ces députés nationaux qui ont participé à une séance de travail avec le chef de l'État en 2019, qui a amené à ces opérations, dont lui-même a souligné le fait que, au départ, dans les deux, trois premiers mois, ces opérations ont donné des grands résultats. L'honorable, qui sait que nous parlons ici sur vos antennes des questions hautement sécuritaires et qu'il en connaît la profondeur et qu'il sait que nos différentes responsabilités devraient nous astreindre à certaines retenues. L'honorable aurait pu dire la raison pour laquelle ces opérations avaient pris fin. L'honorable devrait dire aussi à vos auditeurs que le président de la République avait mis sur place en son temps une commission d'enquête parce que les fonds avaient été détournés. L'honorable peut-être n'est pas informé de la suite de cette commission d'enquête et des sanctions qui ont été prises à l'envers de certaines personnes, mais je crois que nos responsabilités réciproques nous appellent aussi à ne pas révéler tout sur les médias. Ici, il est question des dossiers sécuritaires.
Mais est-ce qu'on peut dire que les préoccupations...
Pour répondre à la question de votre auditeur.
Justement.
Pour répondre à la préoccupation de monsieur le professeur, les préalables et les services nécessairement ont travaillé là-dessus avant que le président ne se décide de faire application de l'article 85. Et je crois que nous avons souvenir que le président de la République a tenu une réunion avec les députés de l'Union Sacrée où il sollicitait de lui permettre d'avoir un gouvernant parce qu'il a des décisions importantes à prendre.
Donc vous nous rassurez, côté moyen, il n'y a pas de problème.
Nécessairement, des préalables ont été pris, mais ce n'est pas des questions de haute publicité
qu'on proclame partout. Ayons en tête que nous avons un ennemi en face de nous, qui nous écoute, qui nous surveille, qui se prépare à nous accueillir. Donc, je reste convaincu que les moyens ont été mis à la disposition de cette opération qui va être couverte par l'état de siège. Je suis satisfait, moi, parce que j'ai réalisé que le soutien populaire, dans sa grande majorité, il y est. Je donne beaucoup de chance et j'ai beaucoup d'espoir dans ces opérations parce que le Congo, le peuple congolais, a droit à la paix et à la sécurité.
Merci Maître Chabani. Jean-Baptiste Kasekou, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Je suis Namega de Pascal à partir de Bukavu au sud Kivu. La nomination des CD vaillants généraux à la tête des CD provinces, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri, prouve à suffisance que le chef de l'État veut mettre fin à l'activisme des groupes armés opérant à l'est de la RDC et veut instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Néanmoins, la voie du dialogue serait souhaitable pour les nationaux ainsi que la prise en charge de ceux qui veulent se rendre volontairement, car la mauvaise condition de vie de nos militaires est à la base de plusieurs rébellions dans notre pays.
Jean-Baptiste Kasekwa, comment vous répondez à cet auditeur?
Il a parfaitement raison, madame. En 2019, à Goma, à Mubambiro, plus de 4000 jeunes se sont rendus volontairement. Plus de 5000 se sont réunis, rendus à Rumangabo, d'autres à Kalunguta. Pareil au sud Kivu, dans le Tanganyika, dans l'Ituri. Ils étaient prêts à, ils se sont rendus volontairement. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont retournés dans les groupes armés. Aujourd'hui, on parle de plus de 140 groupes armés. Simplement du fait que au niveau de Kinshasa, au niveau du pouvoir central, ils se sont battus pour savoir si oui ou non, il fallait que les fonds promis par les partenaires internationaux à la pour soutenir le programme DDR, il fallait se discuter, savoir si ces fonds devraient être gérés à partir du pouvoir central ou si l'on devait décentraliser. Et pour ça, on a sacrifié cette opportunité immense pendant plus de 2 ans. Donc, La solution n'est pas seulement militariste, mais il y a un contenu opérationnel qui doit être donné à ce que nous voulons. Et cet auditeur d'Améga a effectivement raison de dire l'approche du DDRC doit être encouragée plutôt que de continuer à les bloquer simplement parce qu'il y a des individus à partir du bureau qui c'est ça qui voudraient contrôler. C'est reparti de rétro-commission à partir des fonds que les bailleurs promettent de donner. Merci pour la réussite du DDRC.
Merci Jean-Baptiste Kasekwa, professeur Casimir. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de l'Omami.
Hippolyte Moulinda de Kamana à l'Omami. J'estime bien que cette solution du chef de l'État et des salutaires pour le compatriote de l'Est et aussi détermine son attachement au rétablissement de la paix aussi à l'intégrité du territoire pour nos compatriotes qui ont tant souffert depuis des décennies, une situation très dure. Pour que cette décision porte ses fruits, elle est beaucoup plus de tributaire à l'adhésion de la population meurtrie, parce que, disent, il n'y a plus de solution magique pour grand mot des grands remèdes.
Professeur Casimir Ngoumbi, l'adhésion de la population meurtrie donnerait plus de chances à obtenir des résultats positifs.
Oui, madame, plusieurs thèses le confirment bien. J'ai échangé avec certains collègues de l'étranger, ils m'ont dit, le chef entre la RDC et l'échec de la société civile. Il ne faut pas isoler la population dans ce genre d'opération. Elle est très importante, elle est plus qu'importante. C'est pourquoi juste le développement sérieux des capacités managériales de militaires nommés afin que ces autorités ne laissent rien au hasard. N'entend pas les populations civiles. C'est très important parce qu'elles permettront de communiquer facilement, donner l'information le plus tôt possible aux FRDC sur le terrain. Il n'y a que par cette voie, je crois que les FRDC pourraient l'emporter sur le gouvernement. Comment on peut accepter qu'il y ait une centaine de véhicules bloqués entre Mali et Bounia aujourd'hui, et que à Kisangani, d'ailleurs, je vous dis que les carburants ont énormément de problèmes aujourd'hui maintenant, parce qu'on n'a pas de ravitaillement en termes de carburants qui viendraient de l'Est. Donc, je crois qu'il faut véritablement utiliser la force, compter sur les populations locales, compter sur les communautés. Même si les communautés ont connu des problèmes, des conflits, moi je crois qu'il y a des, il y a des approches qu'il faut mettre en place.
En plus de l'adhésion,
mettre à contribuer les populations.
Oui, à part l'adhésion de la population, professeur, qu'est-ce que vous proposez d'autre pour le succès de cette décision prise par le chef de l'État?
Ouais, moi je crois qu'il faut maintenant que les acteurs civils, anciens gouverneurs, vice-gouverneurs, les députés provinciaux, les ministres provinciaux, et heureusement que cette décision a été prise de cette manière-là, pourraient accepter de fédérer autour des autorités militaires pour que tous ensemble, ils puissent atteindre les objectifs assignés par le gouvernement de la République. Ce sera encore une chose, d'après moi,
merci,
très importante.
Merci, professeur. Maître Jacques Machabani, votre conclusion, nous sommes à la fin de l'émission.
Bon, je crois que tous ensemble, nous devons nous souder, nous lier, nous unir autour de cette décision courageuse et prise par le président de la République. Cette situation vécue par nos populations de l'Est, des deux provinces, et même, c'est d'ailleurs plus élargi à ces deux provinces, doit finalement prendre fin. Des opérations militaires se sont tenues, des réunions politiques se sont tenues. Il a été démontré à suffisance que les mécanismes traditionnels de l'administration de ces populations et même de justice, parce qu'on a parlé des droits des citoyens, étaient arrivés à leur limite. La Constitution de la République, le constituant, a donné cette possibilité au président de la République à travers l'article 24. Elle est, à mon avis, à la hauteur des défis, mais il est important qu'au-delà de nos vaillants militaires des forces armées congolaises, il est important que la classe politique, les forces vives de la nation, la société civile, telle que le professeur vient de le souligner, et les populations soutiennent, se liguent, accompagnent cette nouvelle mission donnée à nos FARDC.
Merci.
Je reste convaincu qu'ensemble, nous donnerons la paix et la sécurité à nous.
Merci, Maître Chabani. Jean-Baptiste, qu'est-ce quoi votre conclusion aussi en 30 secondes?
Premièrement, je voudrais que l'on donne un contenu opérationnel réel à l'état de siège, notamment à créer les conditions de la restauration de la confiance entre l'armée et la population, et cela passe par la permutation de toutes ces troupes et des officiers accusés d'affairisme. Deuxièmement, je voudrais que l'on dispose des moyens financiers. Proposer par exemple que l'argent que nous payons pour plusieurs taxes, GOPAS, soit affecté à la dotation des moyens extra-budgétaires de l'armée, parce que cela va éviter aux populations d'être victimes de tracasseries. Troisièmement, je voudrais demander à mes collègues députés de ne pas cautionner des demandes de prorogation mécanique. Nous devons évaluer concrètement comment ces autorités militaires se comportent. Dans les cas contraires, eh bien, nous ne devrions pas sacrifier nos populations par des demandes de prorogation de cet état de siège de manière fantaisiste et fanatique.
Merci Jean-Baptiste Kasekwa. Professeur Casimir Ngoubi.
Je souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'action sur le terrain, madame, peu de médiatisation pour impliquer la population dans cette action qui pourrait être, à mon avis, salutaire.
Merci professeur. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Martin Sebujangou était à la supervision. Merci à Donna Madimba qui nous a aidé à préparer cette émission. Dieudonné Nyangasa est à la mise en onde. Présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.